Le journal d'Haïti et des Amériques, c'est avec Anne Verdaguet. Bonjour Anne.
Bonjour Edmond, bonjour à tous. À la une de l'actualité donc des Amériques, J-1 au Venezuela, l'opposant Juan Guaido a promis de faire rentrer l'aide humanitaire quoi qu'il arrive dans le pays ce samedi. Ce vendredi, deux concerts seront organisés, l'un de l'autre côté de la frontière en Colombie pour récolter des fonds et l'autre côté vénézuélien par le gouvernement de Nicolas Maduro. On va aussi parler de cette nouvelle journée de mobilisation en Haïti. Aujourd'hui, cela fait deux semaines à présent que la population réclame la démission du président Jovenel Moïse. On va s'intéresser à une initiative citoyenne, celle de femmes haïtiennes qui veulent ouvrir une consultation nationale dans le pays. Nous parlerons aussi du référendum organisé à Cuba. Ce dimanche, les Cubains sont appelés à s'exprimer sur la nouvelle constitution, une constitution qui, si elle est approuvée, reconnaîtra notamment l'économie de marché. Au Venezuela, journée décisive aujourd'hui à la veille de l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. C'est en tout cas ce qu'a promis l'opposant Juan Guaido, alors que Nicolas Maduro, l'actuel chef de l'État, a déjà annoncé la fermeture de la frontière terrestre avec le Brésil et menace de fermer la frontière colombienne en Colombie. Dans la ville frontalière de Cúcuta, un grand concert caritatif est également organisé sur le pont Tienditas, un pont aujourd'hui fermé qui relie les deux pays et où est stockée depuis plusieurs jours la plus grande partie de l'aide humanitaire. Ce concert très médiatisé vise à récolter des fonds pour le Venezuela, mais aussi à recruter des bras pour réussir à faire entrer cette aide côté vénézuélien. Le reportage à Cúcuta de notre envoyé spécial Marie Normand.
À quelques mètres du pont Tienditas, Manuel Taras tient avec d'autres bénévoles un barrage filtrant. Il ne laisse passer que les véhicules de la défense civile colombienne et des camions régis.
Ça, ce sont les véhicules qui transportent le matériel pour les artistes.
Ils sont une vingtaine à participer à ce grand concert caritatif qui doit attirer 250 000 spectateurs ce vendredi, inédit, à Cúcuta. Le maire, pour l'occasion, a décrété un jour férié. Non loin de la Seine, des campings gratuits ont été ouverts spécialement pour les personnes venues du Venezuela. Cet étudiant de l'université de San Cristobal vient de s'y installer.
Oui, bien sûr, on va en concert, mais notre mission principale, c'est de contribuer à l'aide humanitaire.
Car l'idée, c'est d'utiliser les spectateurs pour faire entrer le jour suivant cette aide côté vénézuélien, de l'autre côté du pont. Là où pourtant, un contre-concert est organisé tout le week-end par le gouvernement Maduro. Un risque de tension qu'évacue totalement Fernán Ocampo, l'un des organisateurs du concert côté colombien.
Il n'y a qu'un seul concert. Ce que nous avons compris, c'est que de l'autre côté, aucun artiste ne veut chanter. Donc notre concert sur le pont Tienditas, c'est le seul avec plus de 25 artistes. Et on se félicite du nombre de dons reçus du monde entier.
L'objectif avancé par le milliardaire britannique Richard Branson, c'est de récolter grâce au site internet de l'événement 100 millions de dollars pour le Venezuela en seulement 60 jours. Marie Normand, Cúcuta, RFI.
La revue de presse des Amériques avec Stéphanie Schuller. Bonjour Stéphanie.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Et à la veille du jour J au Venezuela, les alliés internationaux du gouvernement Maduro se font entendre ce matin dans la presse.
Absolument, la Russie accuse une nouvelle fois les États-Unis de se servir de l'aide humanitaire comme prétexte pour intervenir au Venezuela afin de renverser le pouvoir du président Nicolas Maduro, rapporte El Nacional. La Chine, quant à elle, met en garde contre, je cite, les graves conséquences que pourrait avoir une entreprise très forcée de l'aide humanitaire.
Et c'est dans ce contexte très tendu qu'intervient une nouvelle défection dans les rangs chavistes et non la moindre.
En effet, il s'agit d'Hugo Carvajal, député, ancien chef des services de renseignement militaire et figure clé du gouvernement Chavez, explique El Universal. El Pollo, le poulet comme on le surnomme aussi, a demandé hier à ses frères d'armes de laisser entrer l'aide humanitaire au Venezuela. Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Hugo Carvajal affirme que les forces armées bolivariennes ne pourraient faire face à aucun ennemi et qu'elles souffriraient également de la crise humanitaire. Avant de reconnaître la légitimité de Juan Guaido comme président par intérim, Hugo Carvajal a adressé un message très dur à Nicolas Maduro qu'il a qualifié d'usurpateur. On l'écoute.
Ya ha sido más que suficiente, Nicolás. Ça suffit, Nicolas. Assume ta responsabilité. Chavez l'a assumé à l'époque. Tu as assassiné des centaines de jeunes dans les rues qui ont revendiqué les droits que vous leur avez volés, sans parler de toutes les personnes tuées par manque de médicaments et de sécurité. Assume la misère que tu as apportée sur nos terres. Assume la crise humanitaire, économique, politique et sociale dans laquelle tu as plongé tout le pays.
Pour le New York Times, cette rupture avec le régime de la part d'un homme qui, en tant que chef du renseignement militaire, gardait jadis ses secrets, ajoute une dose de pression inattendue sur Nicolas Maduro.
Les Haïtiens, Stéphanie, se préparent aujourd'hui à une nouvelle journée de manifestation.
Oui, à Port-au-Prince, une mobilisation est prévue après les funérailles de plusieurs personnes tuées lors des mobilisations antigouvernementales, annonce Alter Press. Selon l'opposition, une cinquantaine de personnes auraient été tuées depuis le début du mouvement, le jeudi 7 février, à travers le territoire national, alors que les organismes de droits humains signalent plus d'une dizaine de décès, précise l'agence en ligne. De nombreux manifestants entendent donc dénoncer ce vendredi l'incapacité des dirigeants haïtiens à garantir la sécurité de la population.
Et bien que ce ne soit pas leur seule motivation pour redescendre dans la rue, Stéphanie.
Toujours d'après Alter Press, les manifestants veulent également dénoncer le transfert aux États-Unis mercredi après-midi de 7 présumés mercenaires étrangers, arrêtés dimanche dernier par la police nationale d'Haïti alors qu'ils se trouvaient dans les parages de la Banque centrale à Port-au-Prince et qu'ils étaient en possession d'armes de guerre. Selon les informations du Miami Herald, aujourd'hui, ces étrangers, dont 5 Américains et 2 détenteurs de permis de résidence aux États-Unis, ne seront pas poursuivis par la justice américaine. Lors d'un débriefing avec les autorités américaines, ils ont déclaré avoir été en Haïti pour assurer la sécurité d'un homme d'affaires qui travaille avec le gouvernement haïtien, selon le Miami Herald. Le département d'État américain a simplement déclaré que le retour de ces individus aux États-Unis a été organisé en coordination avec les autorités haïtiennes. En Haïti, les autorités judiciaires et policières restent murées dans le silence, constate de son côté le Nouvelliste. Ils n'ont rien dit non plus du sort du citoyen haïtien appréhendé avec les 7 étrangers et qui reste, lui, en prison.
Cette affaire suscite une vague d'indignation en Haïti.
L'éditorialiste du Nouvelliste fustige une débandade des institutions haïtienne, alors que le National fait part de ce qu'il qualifie de sentiment d'humiliation et d'impuissance de la population haïtienne face à la toute-puissance des pays, entre guillemets, organisé, Anne.
Merci Stéphanie Schuller pour cette revue de presse des Amériques. On reste en Haïti où donc des milliers d'Haïtiens sont à nouveau attendus dans la rue. Aujourd'hui, la population s'attend à des violences face à ces tensions. Une cinquantaine d'organisations de femmes de tous les départements du pays ont adressé une lettre ouverte aux trois pouvoirs de l'État haïtien et à l'opposition pour leur réclamer la mise en place d'un processus de consultation nationale en se basant sur les exemples réussis du Rwanda et du Bénin. Gerda Bien-Aimé, présidente de la Fédération des femmes du Bas-Artibonite, également professeure, notaire et ancienne candidate pour un poste de sénatrice, explique l'objectif d'un tel processus à Romain Lemaresquier.
Nous, leaders d'organisations de femmes, sommes interpellés par la détérioration de la crise politique et la dégradation de la situation socio-économique de notre pays. Nous sommes, comme les jeunes et notre diaspora, exclus des processus de prise de décision. Ainsi, avons-nous décidé de faire entendre nos voix et d'être force de proposition. Nous sommes convaincus de la nécessité d'un dialogue constructif entre Haïtiens de l'intérieur et de la diaspora pour repartir sur de nouvelles bases pour vivre dans un pays où le quotidien n'est pas caractérisé par la misère, la violence, la corruption, les inégalités et l'exclusion.
Madame Bien-Aimée, vous appelez les autorités à s'inspirer de ce qui a été fait au Bénin ou au Rwanda. Pensez-vous qu'une telle initiative puisse aboutir, sachant que de nombreuses tentatives ont déjà été réalisées en Haïti, avec notamment le dialogue national ou encore les états généraux sectoriels?
C'est en tenant compte de l'échec de diverses tentatives de dialogue que nous autres femmes nous proposons aux acteurs étatiques et non étatiques de s'inspirer des meilleures pratiques et leçons apprises du Bénin et du Rwanda qui ont réussi leurs expériences de consultation nationale. Les résultats des efforts en faveur de la paix, de la réconciliation et du progrès sont mesurables dans ces deux pays. Nous avons beaucoup à apprendre non seulement des acteurs de ces consultations, mais aussi des nouvelles générations béninoises et rwandanaises, notamment des femmes et de leur diaspora. D'autant plus que la majorité des Haïtiennes et Haïtiens sont filles et fils d'esclaves arrachés d'Afrique.
Madame Bien-Aimée, cette lettre ouverte a été signée par des dirigeantes d'organisations de femmes de tous les départements du pays. Or, les institutions haïtiennes comptent peu de femmes à leur tête. Comment expliquez-vous cette absence de femmes dans les organes décisionnaires ?
Si on se réfère à notre Constitution, qui en son article 17-1 prescrit qu'un quota d'au moins 30% de participation des femmes à tous les niveaux de la vie nationale. Les femmes n'occupent que 2% des sièges au Parlement haïtien. C'est cette faible représentation politique des femmes qui explique par des obstacles majeurs, dont entre autres une perception négative de la politique jugée immorale, corrompue et dangereuse, par conséquent réservée aux hommes. Aussi, avons-nous beaucoup à apprendre du Bénin et du Rwanda en matière de la participation politique des femmes aux sphères de décision dans la vie publique.
Madame, l'avenir d'Haïti est-il conditionné à l'évolution de la place de la femme dans la société haïtienne ?
Certainement, c'est plus que la moitié de la population laissée à l'écart. Aussi, est-il impératif que nous soyons bien représentés à la table du processus de consultation nationale, que nous priorisons comme vote pour le salut d'Haïti futur.
Une entente nationale en vue d'une sortie de crise à court ou moyen terme est-elle envisageable selon vous ?
Une entente nationale est non seulement envisageable, pour moi, c'est un impératif. Je peux dire guidé par les idéaux de nos mères et pères fondateurs, stimulé par la perspective d'un avenir meilleur pour Haïti, nous sommes toutes très confiantes dans la réussite d'un dialogue constructif entre Haïtiennes et Haïtiens de l'intérieur et de la diaspora pour faire renaître notre Haïti de ses cendres et des combles.
Gerda Bien-Aimée, présidente de la Fédération des femmes du Bar-Tibonique, et sachez que cette initiative a reçu un accueil favorable puisqu'on apprend que le président haïtien a signé hier un décret confirmant la création d'un comité de facilitation du dialogue national inter-haïtien, un comité qui sera composé, selon Gerda Bien-Aimée, de 4 femmes et de 3 hommes.
RFI, les voix du monde.
Bonjour Arim Lipold.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Dimanche prochain, les Cubains sont donc appelés à s'exprimer sur la nouvelle constitution. Une constitution qui, si elle est approuvée par le référendum, ce qui ne fait guère de doute, doit reconnaître l'économie de marché, la propriété privée et les investissements étrangers, sans toutefois renoncer à l'objectif d'une société communiste. Arim, ce texte qui doit remplacer la constitution de 76 doit apporter une base légale à l'ouverture de l'économie cubaine.
Oui, exactement. Une ouverture entamée il y a 10 ans, ce qui fait qu'aujourd'hui, presque 13% de la population cubaine active travaille déjà dans le secteur privé. Ce sont les fameux cuentapropistas, des sortes d'autres entrepreneurs dont les petits commerces se sont multipliés sur l'île. Sous la présidence de Raúl Castro, Cuba a effectivement changé de visage et s'est un peu libéralisé au niveau économique.
La nouvelle constitution arrive qui entérine donc des réformes économiques, mais sur le plan politique, rien ne bouge.
Non, le système politique basé sur le parti unique, le parti communiste, reste en place. Le texte stipule que, je cite, « l'être humain n'atteint sa pleine dignité que dans le socialisme et le communisme ». Une mention qui n'est pas anodine au moment où l'influence de l'extrême gauche recule en Amérique latine et où le Venezuela, le plus proche allié de Cuba, est bouleversé par une crise économique et politique sans précédent. Cette référence au communisme et le maintien du statu quo politique suscite d'ailleurs de vives critiques de l'Église catholique à Cuba et de l'opposition, une opposition qui s'est fortement mobilisée pour inciter la population à voter non dimanche prochain. Pour la première fois, en fait, cette campagne ne s'est pas seulement déroulée dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux, devenus de plus en plus accessibles aux Cubains. Certains opposants ont d'ailleurs été arrêtés, Anne.
Mais cette information, Arim, est occultée par les médias d'État qui font ouvertement la propagande pour le oui.
Oui, le slogan « Yo voto si » est d'ailleurs omniprésent. On le voit sur les affiches, sur les bus, dans les supermarchés. Il tourne en boucle à la télévision et sur les réseaux sociaux. D'après le site d'information 14 Medio, proche de l'opposition, les médias officiels ont reçu certaines instructions pour la couverture du référendum, comme par exemple de valoriser la gestion de crise après le passage récent d'un ouragan, une gestion de crise qui a pourtant été critiquée par la population concernée.
Arim, cette consultation populaire est-elle jouée d'avance pour autant ?
Alors, je pense qu'on peut s'avancer sans risque et dire que la constitution, oui, sera adoptée par les Cubains. Alors, pour que le texte soit validé, il faut une majorité des électeurs inscrits, donc au moins 4 millions de voix. Rappelons que l'ancienne constitution de 1976 a été adoptée en référendum avec 97,7%. Cette constitution resterait d'ailleurs en vigueur si jamais le non l'emportait dimanche prochain. Alors, il faut savoir que la particularité de ce scrutin, c'est que la population a pu débattre du projet de la nouvelle constitution en amont. Des dizaines de milliers de réunions publiques ont été organisées pendant pratiquement un an, selon les chiffres officiels, et elles ont permis aux Cubains de se prononcer sur le texte.
Et des débats, Arim, qui, d'après les autorités, ont apporté des changements significatifs.
Oui, plus de la moitié des articles ont été modifiés, dont celui qui proposait la définition du mariage comme l'union entre deux personnes, ce qui ouvrait la voie au mariage homosexuel, un projet défendu notamment, vous savez, par la fille de Fidel Castro, Mariela. C'était aussi le passage le plus controversé du texte. Une majorité des participants au débat s'y était opposée et le gouvernement cubain a dû revoir sa copie. Le gouvernement qui veut croire en une large victoire du oui dimanche prochain, on devrait connaître les premiers résultats officiels lundi après-midi.
Merci beaucoup, Arim Lipold. Le journal La Première Caraïbe, à présent présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une en Guadeloupe, la colère gronde chez certains habitants du sud de la Basse-Terre.
Oui, une colère attisée par le déficit abyssal de la communauté d'agglomération Grand Sud Caraïbe, communauté anciennement présidée par Lucette Michaud-Chevry et désormais dirigée par Joël Beaugendre. Les habitants redoutent, et ils n'ont sans doute pas tort pour être très honnêtes, que l'on vienne tout simplement chercher l'argent qui manque dans leur poche. Ronan Poney.
75 millions d'euros de dettes d'impayés de déficits mêlés. Des écritures comptables mensongères qui font craindre le pire encore. Et un constat que ne peut ignorer Joël Beaugendre. Le maire de Capesterre était le premier vice-président de la communauté d'agglomération et aussi responsable de la situation que la présidente, Lucette Michaud-Chevry. Alors, que va-t-il se passer ? L'État, c'est une certitude, ne mettra pas la main à la poche. L'énormité de la dette sera donc bien à la charge des contribuables de la zone du Sud-Basse-Terre. Environ 26 000 personnes. La taxe foncière et les taxes annexes devraient faire un bond énorme, comme à Baïf, où la taxe d'habitation a augmenté de 400 à 1 000 euros. Une pétition de révolte a été publiée sur le site internet Avaz. Elle a recueilli près de 700 signatures à peine lancées. Non, nous ne paierons pas. Nous ne sommes pas responsables de la gestion malsaine, du non-paiement des factures, de l'embauche de 90 personnes qui ne viennent pas au travail, dit la pétition, lancée par une habitante anonyme du Sud-Basse-Terre. La pétition est destinée au préfet, représentant d'un État qui n'a pas su donner de coup d'arrêt à ce naufrage ces dernières années.
Direction Paris maintenant avec le projet de loi dit de toilettage du statut de la Polynésie française qui a été adopté en première lecture par le Sénat mardi après-midi, vote unanime d'ailleurs. La sénatrice martiniquaise Catherine Conconne a voté pour avec une petite arrière-pensée. Elle espère bien qu'un jour un texte du même genre accorde davantage d'autonomie à son territoire. Catherine Conconne est au micro de Serge Massot.
Vous savez, c'est le parti auquel j'appartiens plus de 50 ans et il prône l'autonomie depuis. Donc c'est un mot qui faisait peur il y a longtemps. On l'assimile à l'indépendance, à de la rupture. Et puis on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire nous-mêmes, décider nous-mêmes. On peut mieux régler un certain nombre de problèmes, voire adapter un certain nombre de dispositifs, tout en étant français. Voilà, ça fait une part belle à l'identité d'un peuple et puis au fait qu'on est toujours les meilleurs spécialistes de soi-même.
Bon après-midi, Anne, bon week-end, à lundi.
Et bon week-end à vous aussi, Benoît Ferrand, à lundi. Merci d'être à notre écoute. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. On se retrouve donc lundi, 14h10, heure de Paris. En attendant, très très bonne journée à tous.